L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques minutes, ce sera notre World Tour. Montréal investit dans la Smart City. On en parlera tout à l'heure avec Aurore Géraud. Et puis notre French Tech Tour. Un rapprochement entre les startups françaises et espagnoles. Pourquoi pas, hein? C'est pas olé olé comme idée.
Olé.
On en parle dans quelques minutes et puis juste après ce sera notre rendez-vous avec la rédaction de zeronet.com. Mais dans l'immédiat avec Lila Megraoua et nos invités, on va parler de l'internet des drones.
Mais
Lila,
oui.
Parce que internet, on connaît.
Internet des objets.
On connaît aussi.
On connaît. Les drones.
On connaît.
On connaît.
On sait ce que c'est. Mais l'internet des drones, qu'est-ce que c'est?
L'internet des drones, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir avec deux jeunes hommes. Luc Clément, vous êtes cofondateur d'Uavia. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et le deuxième des trois cofondateurs, parce qu'ils sont trois, d'Uavia, Pierre Pellet, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme
c'est Uavia Power aujourd'hui.
Tout à fait.
Voilà,
tout
c'est
à fait.
Ça. Exactement.
Alors, on a déjà parlé des drones grand public, des drones militaires. On a abordé il y a quelques temps déjà le marché des drones civils. Les professionnels ont un peu du mal à s'en emparer, mais le marché global devrait représenter dans les 10 prochaines années 14 milliards de dollars annuellement, donc en cumulé 93 millions de dollars. Donc gros marché. On va donc s'intéresser à l'internet des drones, mais civils, professionnels. Alors messieurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'internet des drones? C'est quoi? C'est comme l'internet des objets? Les drones communiquent entre eux?
Alors tout à fait. Nous on est parti en fait. On est parti du principe de l'internet des objets, donc les objets qui sont connectés à internet et qui peuvent effectivement communiquer entre eux. Et on est parti sur un principe, sur l'industrie des drones, on a des gros problèmes. Donc c'est d'une part la batterie des drones qui est très faible, donc ce qui fait que les drones peuvent voler environ 30-40 minutes, mais pas plus. Et d'autre part, on utilise des liens radio, ce qui fait que les drones sont pilotés à une distance de maximum 2 km. Donc on est obligé d'avoir une intervention humaine sur le terrain. Nous, avec nos drones, on les connecte à Internet directement, ce qui fait qu'on a une portée d'utilisation complètement illimitée et qu'on peut piloter un drone depuis l'autre bout de la planète. Et au-delà de ça, donc, on crée également des stations de recharge qui permettent de recharger les drones au cours d'une mission ou entre deux missions, ce qui fait que nous n'avons plus du tout d'intervention humaine sur le terrain et que nos drones sont autonomes. Donc on peut les contrôler complètement à distance, comme dans l'Internet des objets.
Et alors, ça marche comment? Ça marche avec les réseaux mobiles, la 4G, tout ça? Comment sont-ils connectés à Internet?
Les drones, nos drones en l'occurrence, sont connectés à Internet via le réseau mobile classique, hein, comme votre téléphone. On utilise également les réseaux professionnels privatifs. Donc, ce sont pas réseaux commerciaux, mais ce sont le même type de réseau, donc réseau 4G, 3G.
D'accord, ok. Et donc, on arrive à piloter comme ça, à distance, même une distance éloignée de l'endroit où est les drones, sans temps de latence, etc.
Oui, par exemple, en mars dernier, donc Luc, en l'occurrence, était à San Francisco, et depuis sa chambre d'hôtel, il a contrôlé un drone en temps réel, donc un drone qui était pas très loin de Paris, ici en France. Donc, ça représente un peu plus de 9000 km de distance entre le drone et l'opérateur, et une latence qui n'excède pas, qui est de l'ordre d'un dixième de seconde, 100 millième de seconde, ce qui est très correct pour piloter un drone en l'occurrence.
Alors, si vous avez un défaut de connexion, qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est justement là où on entre dans qu'est-ce que l'internet des drones. En fait, on ajoute un degré d'intelligence supplémentaire au sein de nos drones en ajoutant notamment un ordinateur. Il y a un ensemble d'algorithmes qui s'exécutent en permanence de telle sorte que s'il y a un problème, vous parliez par exemple d'une perte de connexion, le drone va de manière totalement autonome prendre une décision en fonction de plein de variables de vol, sa batterie, sa position. Il peut par exemple retourner automatiquement à la station de recharge la plus proche ou même retourner à la dernière position dans laquelle il sait qu'il avait une connexion cellulaire qui était bonne.
Alors il faut bien comprendre que nous fabriquons des drones qui sont connectés, mais au-delà de ça, ils sont aussi intelligents. Donc effectivement, comme le disait Pierre, nos drones sont capables, en cas de perte de connexion, d'agir de façon totalement automatique. Et donc c'est un premier pas vers les drones complètement autonomes.
Donc ça veut dire ils sont... Oui, on est proche de l'autonomie complète. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'ils soient totalement autonomes, ou est-ce que c'est pas du tout votre objectif?
Alors ce qui manque aujourd'hui pour avoir des drones complètement autonomes, c'est tout d'abord la réglementation, puisque c'est interdit aujourd'hui de piloter d'avoir un drone qui est piloté en fait de façon complètement automatique, du moins sur le territoire européen. Aux États-Unis c'est la même chose. La législation est en train d'avancer de ce côté-là, mais il va falloir d'abord que les drones fassent leurs preuves et montrent qu'ils soient sûrs avant qu'on puisse avoir des lois qui nous permettent de faire ça de façon totalement automatique. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de piloter déjà des drones de façon complètement automatique et nous avons déjà développé les solutions qui permettent de le faire.
Alors pour l'instant, quels sont vos clients ? Ça va être des groupes qui vont avoir besoin de flottes de drones pour surveiller peut-être des champs, des usines éventuellement.
Alors on se base sur deux marchés principaux pour l'instant. D'une part le marché de la sécurité, donc ça va être essentiellement pour des entreprises qui ont besoin de surveiller des gros sites industriels. Et d'autre part sur le marché de la maintenance et de la construction. Et donc là, ce sera plus pour inspecter, pour faire des inspections journalières. Par exemple, lorsque vous avez un gros bâtiment à construire, on va pouvoir suivre l'évolution du chantier jour après jour en faisant décoller le drone, en faisant un mapping 3D du chantier. Donc voilà, c'est les deux marchés principaux sur lesquels on se base actuellement.
Technologiquement, c'est prêt ou est-ce qu'on est au balbutiement de tout cela ? Est-ce qu'il y a encore des progrès pour que ce soit véritablement fonctionnel, on va dire ?
Technologiquement parlant, ça fonctionne. Aujourd'hui, on en est au stade, en ce qui nous concerne, nous, à UAVIA, des expérimentations. C'est-à-dire qu'on peaufine, entre guillemets, notre technologie, mais technologiquement parlant, ça fonctionne et ça fonctionne même plutôt bien.
D'accord. Il y a beaucoup de sociétés comme la vôtre qui sont sur ce segment-là ?
Oui, alors en fait, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à faire des drones entre guillemets qui sont connectés à Internet. Mais ce qui nous différencie, c'est que on reçoit les informations du drone et on est également capable de lui en envoyer, c'est-à-dire de le contrôler en temps réel. Là où nos concurrents entre guillemets se limitent pour l'instant à transmettre les informations du drone, donc dans un seul sens.
Aujourd'hui, nous avons le seul drone qui est pilotable complètement à distance sur le marché mondial.
D'accord. On parle beaucoup de la 5G. Qui sera, j'imagine, pour vous capital, parce que ça permet encore de réduire les temps de latence, d'avoir des débits plus élevés, etc. Moi, j'avais lu quelque part qu'on pouvait, par exemple, lors d'un incident dans une centrale nucléaire, piloter, je sais pas moi, un tracteur, enfin des gros objets comme ça à distance via la 5G, parce que là, on a un temps de latence très faible. Vous confirmez, ça sera révolutionnaire la 5G ?
Alors la 5G, pour moi, elle sera révolutionnaire surtout sur la bande passante, c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de faire passer énormément de données très rapidement. Par contre, en temps de latence, on ne devrait pas améliorer excessivement ce qui se fait avec la 4G qui est déjà excellent. Et donc nous, actuellement, on a une latence qui est extrêmement faible. Quand Pierre parlait d'un dixième de seconde entre les États-Unis et la France, quand on pilote un drone à 200 km de distance en France, on est sur des latences qui sont ridicules. C'est de l'ordre de 20 millièmes de seconde.
D'accord. Et ça suffit là pour ne pas avoir de perturbations dans le pilotage du drone.
Absolument. Là, on est capable de piloter des drones en temps réel depuis notre navigateur web. On a le retour vidéo en HD du drone, même un double flux vidéo, puisqu'on a la caméra frontale du drone et une payload, plus toutes les données de vol qui sont issues du drone.
Oui, et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que lorsqu'on parle de contrôler un drone, on simplifie le contrôle du drone. C'est-à-dire que vous avez une carte sur l'application web, vous allez cliquer sur la carte et le drone va s'y rendre de manière autonome. Donc la latence, le fait qu'on ait une latence de 20 millisecondes, c'est moins grave, parce qu'on n'a pas un joystick entre les mains en train de piloter le drone de manière assez similaire à ce qui se fait sur le marché en ce moment.
Je posais une question assez naïve. Qu'en est-il comment ça se passe en matière de permis de vol dans l'espace aérien aujourd'hui en France, ou est-ce que pour l'instant ça ne vous regarde pas trop dans la mesure où vous opérez sur des sites industriels ?
Alors effectivement, au niveau de la réglementation en France, pour l'instant la réglementation est finalement assez vieille puisqu'elle date de 2012, la réglementation sur les drones, alors qu'en 3 ans le marché a explosé et a beaucoup évolué. On attend une nouvelle loi qui devrait sortir bientôt, une loi à échelle européenne fin 2016 qui devrait uniformiser en fait la réglementation. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'on distingue 4 scénarios de vol principaux. Et que du vol complètement autonome et à distance comme on le fait nous, c'est pas prévu dans le cadre de la loi actuellement. Néanmoins, en France, la législation est relativement assez souple en termes de dérogations, qu'on est capable d'avoir des dérogations quand on travaille avec des gros groupes à titre expérimental, ce qui nous permet de tester déjà notre solution sur le marché.
Quels sont, si on est un peu fou, quelles sont vos prédictions quant à l'arrivée des drones dans l'espace public ?
Alors, ma prédiction, c'est d'abord que le marché va s'organiser. notamment en termes de comment est-ce qu'on régule un peu tous ces drones qui vont évoluer. Donc il y a nécessairement des lois qui vont passer afin d'uniformiser. Par exemple, aux États-Unis en ce moment, ils sont en train d'enregistrer tous les drones. Mmh. Chaque pilote de drone doit s'enregistrer sur un site internet. Ils sont en train vraiment de répertorier tout cet espace. Donc ce qui va se passer, moi, je pense, hein, dans les prochaines années, c'est quelque chose d'assez similaire au secteur aérien. C'est-à-dire une régulation un peu de l'espace de vol, de qui fait quoi, où sont les drones.
Parce qu'on voit qu'il y a il y a de moins en moins de zones où on peut faire voler des drones.
Oui.
Est-ce que ça va pas un peu tuer, on va dire,
l'esprit,
et puis voilà tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors, est-ce que cette législation ne va pas vous étouffer en quelque sorte?
Contrairement à ce qu'on peut voir dans le domaine de l'aviation civile, donc vraiment avec les avions, il faut bien différencier avec les drones la problématique du fait qu'il y a d'une part des drones à titre récréatif et d'autre part des drones à titre professionnel. Moi, ce que je pense pour l'avenir, c'est que la loi va se durcir concernant les drones à usage récréatif. Mmh. En revanche, l'Union européenne est bien conscient de l'enjeu des drones pour l'industrie et ils vont tout faire pour que les drones puissent avoir le droit de voler. Alors maintenant, il va falloir les faire voler dans un cadre strict. Néanmoins, je pense qu'on va pouvoir avoir une évolution des drones à usage professionnel.
Bon, vos futurs gros clients, ça sera quoi? Amazon, La Poste? Vous en rêvez?
Alors, les futurs gros clients, ce sera a priori des gros groupes qui possèdent des industries minières ou alors des ports, notamment à l'étranger, également en Afrique, qui est un marché qu'on vise. Et puis alors après tout ce qui sont des gros réseaux, donc des gros réseaux électriques, des gros réseaux de chemin de fer.
D'accord, plus pour la surveillance que par exemple pour livrer un colis.
Livrer un colis.
Enfin, si jamais Amazon vous dit oui, vous n'allez pas dire non, ça m'intéresse pas.
Si Amazon veut livrer un colis avec nos drones, on dit oui.
Très bien, merci à tous les deux. Bah écoutez, peut-être qu'Amazon nous écoute, qui seront intéressés par
Clément,
votre proposition.
Luc Clément et Pierre Pellet, merci. Je rappelle, vous êtes cofondateurs de la start-up d'Uavia.
Merci beaucoup.
Exactement, merci beaucoup.
Et
merci,
on revient dans un instant pour la suite de cet atelier World Tour, French Tech Tour et la rédaction de Zeronet.com. A tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, la rédaction de Zeronet.com, Eric Le Bourlou me rejoint dans un instant, comme chaque samedi. Notre French Tech Tour dans une minute, mais pour l'instant, notre World Tour. Montréal investit dans la Smart City et on en parle avec vous, Aurore Géraud.
Pour notre World Tour de cette semaine, étonnamment, nous ne sommes pas avec la ville de Barcelone, mais nous sommes avec Montréal. Et avec moi pour en discuter, Béatrice Couture, qui est directrice générale de Innocité MTL.
Bonjour.
Et Stéphane Goyette, qui est directeur bureau de la ville intelligente et numérique pour Montréal. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, Innocité MTL, quelle est l'origine du projet?
En fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, la ville de Montréal s'est engagée, a entrepris une importante démarche de transformation par le concept de ville intelligente et numérique, a initié une démarche de planification stratégique et déposer un plan stratégique au mois de janvier dernier et un plan d'action comportant 70 projets dans des secteurs qu'on a priorisés. Et pour transformer la ville, on a souhaité aussi l'utiliser, ce prétexte-là, comme un vecteur de développement économique et multiplier les initiatives à saveur économique visant à développer un savoir-faire, mais surtout à créer un écosystème dans le créneau de ville intelligente. L'une de ces initiatives-là est notamment de mettre sur pied un accélérateur de ville intelligente qui vise essentiellement à stimuler l'émergence de start-up dans ce créneau-là.
Donc, un accélérateur, en quoi consiste le programme actuellement?
Alors, actuellement, nous avons 5 entreprises qui sont dans le programme d'accélération de 12 semaines. Alors, il y a un programme de formation complet qui est fourni, mais ce qui est le plus important, c'est que nous fournissons un écosystème de mentors très complet. On a 3 types de mentors. On a des mentors, évidemment, de la ville. On a des mentors également qui sont des entrepreneurs. Donc, ils ont eux aussi, ils ont commencé leur entreprise et vendu à des villes, ce qui n'est pas nécessairement facile. Alors, on entoure nos entrepreneurs de gens qui l'ont déjà fait. Et également, on a des grandes entreprises également qui nous fournissent des mentors. La grande entreprise aide parce que ça peut devenir, ils ont effectivement une expertise, des experts dans certains domaines, et également, ils peuvent amener nos entreprises devenir des partenaires stratégiques et aider nos entreprises à aller à l'étranger également. Alors, notre première cohorte a débuté le 1er septembre et termine leur programme de 12 semaines le 2 décembre lors d'une grande journée démo où nous allons réunir des représentants municipaux de différentes villes et également des investisseurs, parce que c'est très important également pour la croissance d'une jeune entreprise d'avoir des investisseurs pour poursuivre le projet.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui se démarquent, des technologies particulières que vous avez remarquées qui étaient plus utilisées par vos entrepreneurs?
Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a, mais notamment, nous avons dans le secteur de l'application, une application qui gère le stationnement, le parking, et l'application s'appelle Parking, et cette application-là devient une solution complète pour tout ce qui est stationnement, que ce soit le stationnement sur rue, avec parcomètre, payant ou non, ou à l'intérieur pour les propriétaires de stationnements privés. Alors, cette entreprise-là a déjà des usagers à Montréal et Québec, et également s'en va à l'étranger. Là, ils ont dans la mire actuellement New York et Seattle qui seront lancés bientôt. Alors, c'est une bonne nouvelle. On a également une autre entreprise, et ça, c'est un problème très criant pour beaucoup de municipalités, ce sont les services publics numériques. Alors, notre entreprise offre une plateforme qui permet aux municipalités, à un coût très petit, de pouvoir rendre leurs services numériques. Et on fait un projet avec la Ville de Montréal, justement, pour tester la solution et pour faire la preuve de concept. Donc, ce qui va permettre d'avoir de la crédibilité pour cette entreprise-là pour aller dans d'autres villes vendre leurs produits.
Donc, ça répond à un plan stratégique. Donc, on pourrait s'attendre à ce que ces technologies qui sont développées soient plutôt locales. Vous me parlez d'internationalisation. Est-ce que c'est le but?
Oui, tout à fait. En fait, on souhaite ce qu'on souhaite essentiellement et que ces initiatives-là desservent le marché local, mais il y a de fortes chances que les problématiques qu'on rencontre et qu'on cherche à solutionner sur le marché local s'appliquent également dans d'autres marchés. Alors, et ça fait partie de la valeur de Innocité et des autres initiatives de valider leur modèle d'affaires et voir dans quelle mesure ils peuvent s'adresser au marché extérieur. Alors, de sorte que non seulement on transforme la ville, mais on en génère des retombées économiques sur la ville, c'est-à-dire qu'on crée un savoir-faire, on crée des emplois et en exportant un savoir-faire, des services à travers le monde.
Vous avez le démo day en décembre. Ça repart quand la prochaine génération?
Alors, c'est bon moment. On est en recrutement actuellement pour la prochaine cohorte. Alors, nous aurons deux cohortes en 2016. On en aura une première en mars 2016 et l'autre en septembre. Alors, appel à tous, par ailleurs, si des entrepreneurs nous écoutent, nous sommes à la recherche d'entrepreneurs dans le créneau Ville intelligente. Alors, on parle ici mobilité urbaine, services numériques aux citoyens, démocratie citoyenne. On a également tout ce qui est bon Wi-Fi, réseau grande vitesse également dans nos champs d'action. Alors, bonne chance à tous.
Et après notre World Tour, Aurore, on enchaîne avec la French Tech Tour. Et on va parler de Business France qui œuvre pour un rapprochement entre startups françaises et espagnoles. Et vous en parlez avec votre invité, Aurore.
Pour le French Tech Tour de cette semaine, je suis en compagnie de Romain Belvez, qui est chef de pôle New Tech Innovation Service chez Business France pour l'Espagne et le Portugal. Romain, bonjour.
Bonjour.
On va parler d'un événement organisé par Business France qui s'appelle Digital Sisters. Donc ça fait 2 ans que c'est lancé. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Romain?
Oui, Digital Sisters, c'est une série d'événements dédiés à l'innovation en Espagne. L'objectif est de mettre en avant le savoir-faire français auprès de l'écosystème espagnol. Toute entreprise ayant un intérêt à connaître les technologies et les services français innovants sont les bienvenus à cet événement.
Quel est le programme de cet événement des rencontres B2B?
À cette occasion, on amène 30 startups françaises qui sont intéressées, qui misent sur l'Espagne et le Portugal. On leur organise des 2 jours sur mesure, 2 jours 100% business. On va commencer par des ateliers pour répondre à leurs thématiques. On aura des sessions de networking, on aura bien entendu du B2B et également des sessions d'info avec des tables rondes autour de thématiques comme l'innovation en Espagne, les succès français en Espagne et des speakers qui sont emblématiques comme Blablacar, comme BBVA ou Amadeus par exemple.
Alors qu'est-ce que l'Espagne peut apporter de plus aux entrepreneurs français, à la French Tech ?
L'Espagne en général, un premier pas pour les entrepreneurs français. Un pays proche aussi bien géographiquement que culturellement. C'est un pays où on peut plus facilement se développer à l'international pour faire un test par exemple que les pays lointains que peuvent être l'Asie par exemple. On est sur un marché proche géographiquement, donc qui se comprennent. Il y a des différences certes culturelles. On parle pas à un français comme on parle à un espagnol. Mais cependant, il y a des affinités. L'Espagne voit la France un peu comme un grand frère au niveau technologique. Il y a souvent une bonne image de la France en Espagne. C'est pas pour autant qu'il faut arriver en terrain conquis, mais il y a une bonne appréhension en général des solutions françaises ici.
Et donc à l'inverse, qu'est-ce que les entrepreneurs français apportent de nouveau à l'Espagne en matière d'innovation ?
Les entrepreneurs français apportent à l'Espagne un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on est sur un pays qui est de nouveau très dynamique, qui a connu un certain nombre d'années de crise, aussi bien dû à la bulle immobilière que la bulle financière, et qui est un pays qui redémarre, on est à 3,5% de croissance annoncée pour cette année, et qui a besoin de nouveautés, qui a besoin de se restructurer, et quoi de mieux pour cela que l'innovation. Et les entreprises françaises peuvent apporter ce petit plus qui sont des solutions innovantes que l'Espagne n'a pas nécessairement. Ce qu'il ne faut pas oublier juste, c'est que l'Espagne a des géants internationaux, que sont par exemple Telefonica, Prisa, au niveau des technologies, et qu'il faut bien se différencier pour pénétrer ce marché.
Au niveau des secteurs qui sont les plus appréciés, quel domaine vous voyez émerger des Français en Espagne ?
Alors, on est en marge du salon Smart City, donc c'est déjà bien entendu une des thématiques fortes, et notamment à Barcelone, où le salon a lieu. D'autres thèmes, en ce moment, c'est l'éducation. Très important, les solutions pour l'éducation. D'autres solutions, l'e-commerce. L'Espagne est partie avec un peu plus de retard et rattrape son retard, donc c'est intéressant en ce moment au niveau du e-commerce. Les ressources humaines, on est sur un pays qui a besoin d'emploi, donc les solutions sur qui permettent le recrutement, qui permettent le retour à l'emploi sont également les bienvenues. Les fintechs, surtout à Madrid, sont intéressantes, qui est la place financière de Madrid, mais qui est au final une tendance, on va dire, générale. Après, on est dans un pays européen qui est unifié, donc les tendances qu'on voit en France sont à peu près les mêmes qu'on voit en Espagne, qu'on peut voir au Portugal ou en Italie, par exemple.
Votre événement se passe à la fois à Barcelone, à la fois à Madrid. Quelle est la différence, peut-être, au niveau du marché, au niveau de qu'est-ce qui attire dans un endroit plutôt qu'un autre les Français ?
Barcelone, une ville cosmopolite où on a beaucoup de start-up, un écosystème qui est très très tourné vers l'innovation, très dynamique et très jeune. Il y a beaucoup de talents ici, beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accélérateurs. The Family s'installe par exemple à Barcelone plutôt qu'à Madrid. Mais néanmoins, Madrid est également très très dynamique et très attractive. On a plutôt des grands groupes qui s'installent à Madrid. On est plutôt sur des sièges sociaux et des petites structures start-up qui s'installent à Barcelone.
Vous parliez du fait que c'était un des sujets, la Smart City, qu'on peut retrouver chez les start-up françaises en Espagne. Est-ce que vous auriez des exemples ?
Il y a une très belle start-up française qui est présente en Espagne et qui marche très bien sur le thème de la Smart City, qui s'appelle Connexings, qui a débuté avec une personne ici qui était en VIE, en volontariat international en entreprise, qui a réussi sa mission et qui depuis est devenu directeur de l'Espagne et qui se développe très bien avec la mairie de Barcelone par exemple et qui développe tout ce qui peut être solution pour les attentes de bus ou de tramway. Un bel exemple d'entreprise qui d'ailleurs était basée à Madrid au début et qui a déménagé à Barcelone pour s'approcher au plus près de son client.
Merci beaucoup Romain Belvez qui, je rappelle, est chef de pôle New Tech Innovation Service chez Business France, Espagne et Portugal. Merci.
Orange Géraud, merci. On revient dans un instant la suite de cet atelier avec la rédaction de Zeronet.com et le crash test d'Antoine. A tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, allez, direction la rédaction de Zéronet.com. On jette un œil sur, évidemment, toute l'actu que vous avez pu lire cette semaine sur Zéronet.com, premier site d'actualité high-tech en France. Bonjour Éric Le Bourlou.
Bonjour.
Le rédacteur en chef de Zéronet est avec nous comme chaque samedi. Et on va commencer par cette histoire incroyable. À lui seul, il a réussi à rendre une voiture autonome.
Et oui, c'est assez incroyable.
Bon, alors, c'est pas n'importe qui.
Pas n'importe qui, mais peu de gens le connaissent finalement.
Hein. Oui, c'est vrai.
Alors, il s'appelle George Hotz, mais alors les gens le connaissent mieux. Enfin, tous les gens qui suivent un petit peu l'actualité du piratage et des hackers le connaissent mieux sous le nom de Geo Hotz, qui est son pseudo. Alors, Geo Hotz, c'est qui? C'est le premier, tout simplement, la première personne à avoir réussi à hacker l'iPhone juste après sa sortie. Il avait acheté un iPhone et puis il a fait, parce qu'à l'époque, je sais pas si vous en souvenez, mais l'iPhone ne fonctionnait qu'avec un seul opérateur.
Et lui, oui,
ça l'ennuyait.
C'est ça exactement, puisqu'en fait, la commercialisation de l'iPhone était bizarre. Hein.
Exactement.
Ça coûtait très cher, c'était pas un téléphone subventionné. Et puis, c'était chez AT&T, qui fonctionnait.
Et donc ça l'ennuyait. Il avait dit, bon, moi, je veux le faire marcher avec mon opérateur, je vais y arriver. Et il avait réussi, effectivement, à pirater l'iPhone pour qu'il fonctionne avec n'importe quel opérateur. Et ensuite, il avait
Et mondialement, ça nous avait permis, à nous d'ailleurs, de pouvoir téléphoner avec l'iPhone.
Exactement.
Merci beaucoup, GeoHot.
Exactement. Et puis, il a ensuite enchaîné en piratant la PS3 il y a quelques années. Et là, ça faisait quelques temps qu'on n'avait plus entendu trop parler de lui. En fait, on a compris pourquoi. C'est parce qu'il était dans son garage et il travaillait. Il s'est acheté une voiture assez chère, il y aura $30,000 à peu près. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu cette voiture autonome par ses propres moyens. C'est-à-dire qu'il a sorti tous les câbles, il y a branché ses propres capteurs, ses propres caméras, il y a connecté un PC sous Ubuntu.
Et il a hacké une voiture.
Il a hacké une voiture pour la rendre autonome, ce qu'elle n'était pas à la base, évidemment. Et il l'a essayé et ça marche. Il a fait un test avec un journaliste de Business Week, de Bloomberg, qui a été voir comment ça marchait. Ils ont fait un petit test sur les routes américaines et effectivement, la voiture autonome de GeoHot fonctionne, c'est-à-dire qu'il peut, grâce à ses capteurs, avec une grande tablette qu'il a dans son cockpit, et il a même ajouté un joystick pour vous dire à tel point pour pouvoir contrôler sa voiture avec un joystick.
Mais
il a réussi effectivement à la rendre autonome, c'est-à-dire qu'elle peut, elle voit les obstacles, elle est capable
elle arrive à voir les lignes blanches, etc., s'arrêter
s'il y a des problèmes. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est ce hacker qui est un petit peu tout seul dans son coin, est en train de défier. Et c'est sa façon. Il a un petit peu le melon aussi, GeoHot. Hein, il a un sacré ego et son
comme
idée,
tous ces génies de la la plupart du temps. Hein.
C'est vrai. Et son idée, c'est tout simplement de défier les plus grands de la voiture autonome. Les premiers à avoir vraiment sorti un modèle commercial qui marche à peu près, mais pas complètement, on a déjà parlé ici. Il s'appelle Tesla. Hein. C'est la grande marque de voitures électriques de luxe américaine. Et GeoHot, tout simplement dit, moi, j'ai envie de les défier, d'aller sur leur propre terrain et de faire mieux que ce qu'ils font avec leurs milliers d'ingénieurs. Donc,
En
toute simplicité. Ouais. Et ce qui est étonnant quand même, c'est que cette histoire a eu beaucoup d'impact sur Internet et que Tesla s'est senti obligé de réagir, obligé de dire non, je suis désolé, GeoHot, notre voiture autonome, elle est mieux que la tienne.
Ils ont une batterie d'ingénieur.
Exactement.
Alors lui, il est tout seul, quoi.
Il est tout seul, mais c'est quand même intéressant puisque de voir que, une grande marque comme Tesla est obligée de répondre à ce petit hacker dans son coin. Et surtout.
Ça prouve en tout cas que c'est une star.
C'est une star, ouais. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, apparemment, il aurait été contacté d'abord par Tesla pour essayer de travailler sur sa propre voiture. Mais bon, finalement, il a préféré faire ça dans son garage.
Voilà. Bon, on verra bien à quoi ça mène tout ça, hein, parce que c'est bien beau de fabriquer une voiture tout seul, mais ça sert à quoi finalement? Alors, à part pour lui, pour son image, etc.
Exactement. Bon, il aime bien s'amuser avec du matériel. Quoi,
oui, voilà. Ça. Il bidouille bien.
Il bidouille.
D'ailleurs, tiens, en parlant de bidouille, autre bidouille, c'est lui, c'est ce fameux GeoHot qui avait, vous l'avez dit tout à l'heure, réussi à pirater la PlayStation 3.
Oui.
Ce n'est pas lui qui a réussi à pirater aussi, on peut le dire, en quelque sorte, la PlayStation 4.
Non, c'est pas lui, parce que lui n'a plus le droit de toucher à une PlayStation.
Ah oui, c'est ça.
Il a eu un procès avec Sony, c'était très compliqué. Voilà. Il y en a un autre, alors pour l'instant, on ne connaît pas son nom, il est juste sous un pseudo sur Twitter, mais il y en a un autre qui a réussi à jailbreaker la PlayStation 4, ce qui veut dire jailbreaker, on l'a utilisé pour l'iPhone, mais ce qui veut dire tout simplement qu'il a réussi à faire tourner un programme qui n'est pas autorisé par Sony, parce que sur une console de jeu, évidemment, c'est Sony qui choisit quel programme vous avez le droit de faire tourner ou non.
Bien sûr, pour éviter le piratage des jeux, bien sûr.
Exactement.
Et d'ailleurs, Sony s'en sort plutôt bien. Hein. La PlayStation 3 a été pendant des années une vraie forteresse numérique. La PlayStation 4 est sortie il y a 3 ans maintenant. Hein.
En 2013. Mais effectivement, l'avantage aussi, c'est que maintenant, ils sont connectés à Internet et que Sony peut pousser des mises à jour assez facilement pour corriger d'éventuelles failles.
Voilà.
Alors, effectivement, la PlayStation 4 a été jailbreakée, ce qui veut dire que c'est une première étape vers, pourquoi pas, ce que les gens dans le milieu appellent faire tourner des backups, ce qui est une façon hypocrite de dire faire tourner des jeux piratés sur la console. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour Sony. Ils ont déjà corrigé le problème, en fait. Ils ont fait une mise à jour de la console pour corriger ce problème, mais les gens ne sont pas obligés de la faire. Et en fait, on peut aussi imaginer que maintenant qu'on a accès aux entrailles de la console, ben plein de pirates vont pouvoir essayer de chercher pour savoir où il y a d'autres failles et où ce qu'on va pouvoir faire pour la déplomber complètement.
Voilà, c'est-à-dire qu'on a trouvé une faille et quand on est rentré en fait dans cette forteresse,
c'est beaucoup plus facile d'en trouver d'autres ensuite.
Voilà, c'est
donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est une nouvelle star de l'internet maintenant dans ce milieu-là, puisque cette personne tout seul dans son coin a réussi à contourner une protection d'une console très célèbre.
Attention, on va encore parler de jeux et de piratage de jeux sur console. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière, les fans de jeux en ligne sur PlayStation et sur Xbox avaient souffert parce que pendant quelques jours, en fait, les serveurs avaient été attaqués par des pirates. Ça risque de se reproduire pour Noël.
Exactement. Et il y a une équipe de pirates qui s'appelle Phantom Squad. L'année dernière, ils s'appelaient Lizard Squad, qui veulent un peu gâcher le Noël de tous les gens qui vont recevoir une PlayStation 4. C'est pas gentil. Non, c'est un peu des sales gosses. Hein, qui veulent gâcher le plaisir des gens de jouer à leur jeu préféré ou à télécharger des jeux d'ailleurs, et en attaquant de façon massive les serveurs de Sony et de Microsoft. Ils ont déjà prévenu qu'ils allaient le faire, donc là ils sont en train aussi de recruter un peu sur internet des gens que ça intéresserait de se joindre à eux.
Oui.
Et effectivement, ils prévoient une attaque d'une semaine à partir de Noël sur les serveurs du Xbox Live et de PlayStation Network. Donc on verra si les deux marques en question ont pris des mesures, parce que l'année dernière ça avait été un peu la cata, hein. C'était effectivement tombé pendant plusieurs jours et c'était le même genre de personnages qui les avaient attaqués. Donc là, on va voir. J'espère qu'en tout cas, les gens pourront bien profiter quand même de leur console.
Oui, quand même.
À partir du 24 ou 25 décembre.
Bon, on verra ça. On va surveiller ça. Mais je pense que Sony là, et Microsoft doivent être un peu sur les dents. Hein,
oui,
quand même.
On espère.
Ouais. On va parler maintenant de réseaux sociaux avec cette réglementation européenne qui met les pieds dans le plat. Quand même, on est d'accord. Eric, à partir de très bientôt, les ados ne pourront plus se connecter comme ça très facilement sur les réseaux sociaux.
Et oui, il va y avoir quelques petits changements, même de gros changements sur la façon dont on peut se connecter aux réseaux sociaux, et notamment quand on est mineur, puisque pour l'instant c'était un petit peu un fleurou juridique. Il y a une nouvelle réglementation européenne.
Alors c'est vrai que sur Facebook on pouvait pas s'inscrire quand on était trop jeune. Exactement. Mais tout le monde trafiquait les dates de naissance.
Sa date de naissance.
C'était réglé.
Alors bon, maintenant, a priori, il faudrait au moins avoir 16 ans. De manière générale en Europe, même si les pays comme la France par exemple vont sans doute rester à 13 ans, c'est normalement la date à partir de laquelle, l'âge à partir de laquelle vous pouvez vous inscrire sur Facebook. Mais la différence quand même, et on se demande comment ça va être implémenté tout ça, c'est que maintenant les mineurs pour se créer un compte sur un réseau social devront avoir l'accord de leurs parents. Ce qui pourrait se traduire par exemple, quand vous faites une demande de création de compte sur un réseau social, par l'envoi d'une confirmation par mail, par exemple, de vos parents, pour dire qu'ils sont d'accord pour que vous connectiez à Facebook. Mais,
alors
chat,
le problème,
etc.
C'est comment on va prouver que c'est des parents. C'est ça le souci. Ça va être une usine à gaz, ce truc-là.
Ça peut être potentiellement
les cartes d'identité.
Une grosse usine à gaz, en effet. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse technique, d'ailleurs. Hein. On sait juste que voilà, ça c'est la loi. Mais on attend de voir comment c'est possible. Et surtout, à mon avis, les adolescents en question vont trouver vite la parade pour éviter d'avoir à faire
bien
cela.
Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Facebook, Twitter, Snapchat, etc.
L'ensemble des réseaux sociaux évidemment seraient concernés. Ouais,
c'est pas une bonne affaire pour eux d'ailleurs, parce
c'est
que ça
pas forcément
va complexifier
une bonne affaire, notamment
de nouveaux abonnés en
exactement.
Fait.
Exactement, notamment pour les ceux qui plaisent beaucoup aux mineurs, type Snapchat, qui est très utilisé par les adolescents.
Voilà, qui est pratiquement utilisé par les ados.
Essentiellement par les ados.
Et la plupart du temps par les moins de 16 ans. C'est
exactement.
Ça qui est étonnant.
Exactement. Ouais.
Ouais. Ça va être un peu compliqué cette histoire-là. Ouais. On va terminer, Eric, par une news qu'on avait évoquée la semaine dernière concernant Bitcoin. Vous savez, c'est cette monnaie virtuelle sur le web qui a des hauts et des bas. Hein. Parfois, tout le monde dit que c'est génial. Parfois, tout le monde dit, bon, là là, ça n'a pas d'avenir, etc. Bon, enfin, mais en tout cas, on parle beaucoup de Bitcoin. Et la semaine dernière, on parlait du créateur de Bitcoin, qui est, on va dire, voilà, très secret. On ne sait pas qui c'est. Et on avait des informations concernant l'identité de ce monsieur.
Il y avait deux publications américaines qui avaient annoncé tout simplement le nom de ce créateur de Bitcoin qui reste un des plus grands mystères de la techno depuis des années, quoi. Satoshi Nakamoto, sous son pseudo. Ils avaient dit que c'était un certain Craig Wright, un Australien. Ils en étaient sûrs, ou presque. Ils avaient fait des enquêtes approfondies. Ils avaient dit, voilà, ils avaient plein de documents. Ils nous les ont montrés. Ils sont allés dans sa maison. Ils ont parlé à sa femme. Il leur a répondu. Bon,
ouais, il avait des ordinateurs un peu louches chez lui.
Voilà,
hein, je crois.
Il avait des ordinateurs un peu louches chez lui. Il a beaucoup investi dans le Bitcoin. Le problème, c'est qu'apparemment, c'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Ce serait en fait là, ils sont revenus sur leurs grandes enquêtes, aussi bien Wired que Gizmodo, en disant que finalement, en fait, ils ont peut-être été victimes d'un hoax, d'une manipulation. Pourquoi ? Parce que en fait, il s'avère que les preuves qui ont été apportées étaient pas vrai, véridique. Et puis surtout, il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés, notamment des gens qui connaissent Monsieur Wright qui disent non, c'est pas possible que ce soit lui. Il n'a pas suffisamment de compétences pour avoir créé cela.
Mais il est pizzaïolo.
C'est presque ça. Mais en tout cas, il serait un peu un affabulateur et il serait possible. Il est possible qu'il l'aurait un petit peu inventé lui-même cette histoire pour se faire mousser. Donc, on n'en sait pas vraiment plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'a priori, Satoshi Nakamoto demeure un mystère. On ne sait toujours pas qui a inventé le Bitcoin. Et voilà. En même temps, l'histoire est belle. Peut-être qu'on ne saura du coup jamais qui a inventé cette monnaie numérique.
Ouais, mais est-ce que ça nuit pas la crédibilité qu'on ne connaisse pas finalement le créateur de cette monnaie?
Eh bien, justement, c'est ce qu'il voulait à l'inverse. C'est-à-dire que lui, le Satoshi Nakamoto en question, n'a jamais voulu s'exposer pour éviter de dire si on sait qui je suis, ça va peut-être au contraire influencer. Imaginons qu'on apprenne qu'il est banquier, est-ce que voilà, on va pas avoir des problèmes. Voilà. Ouais. Donc, il avait toujours voulu garder sa vie privée. Justement pour cette raison-là, il montrait un truc complètement indépendant de toute conviction politique ou économique. Donc voilà, et on verra bien. Peut-être qu'un jour on le saura, mais pour l'instant, on ne le sait pas et ça reste un mystère.
Merci beaucoup Éric Le Bourlot, rédacteur en chef de Zeronet.com et bonne fête à vous. Mon
merci
cher
à vous aussi.
L'atelier numérique se poursuit dans un instant. On va terminer avec le crash test d'Antoine. C'est dans une minute, à tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, cet atelier numérique touche presque à sa fin. Et avant de souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, on va retrouver le crash test d'Antoine Cyr dans un instant. Mais pour l'instant, on va évoquer l'intelligence artificielle et le machine learning avec Guillaume Degroise de l'atelier. Bonjour Guillaume.
Bonjour François, bonjour
alors,
à tous.
Guillaume, on va parler de machine learning. Mais peut-être avant d'expliquer l'avenir de tout cela, qu'est-ce que c'est que le machine learning?
Ça, c'est une bonne question. Le machine learning, c'est un peu le mot fourre-tout du moment. C'est un peu comme la smart city. Donc, on y met du big data, du prédictif. Certains disent que le machine learning, c'est l'évolution du big data. Le machine learning, pour simplifier, c'est la capacité d'une machine, à apprendre. C'est-à-dire à faire d'elle-même ce qui nous semble des déductions, des compréhensions relativement simples, et à faire ça avec des algorithmes et des données. Donc, finalement, un être humain, il a une façon de réfléchir qui est une façon de réfléchir explicative, conceptuelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre le concept de chat.
Oui.
Voilà. Pour pouvoir reconnaître un chat.
On essaie de prendre toute l'information qu'on ingurgite.
Exactement. On essaye de comprendre. Alors que la machine aujourd'hui, et c'est ça finalement le machine learning, c'est qu'elle est sur une base qui était la base qu'on utilisait en statistique, qui est la base de corrélation des observations. C'est-à-dire qu'on va faire des centaines, des milliers, dans le cas du machine learning, de corrélations entre des informations, et on va faire des associations avec une quantité très très importante de données.
Ouais. On se souvient par exemple de cet ordi, l'un des ordis les plus puissants au monde, qui est le Watson d'IBM, qui sur la santé a, écoutez bien, ingurgité 2 millions d'articles médicaux.
Alors 2 millions d'articles médicaux, c'est énorme, c'est plus que aucun médecin,
ah,
je pense.
Ouais. Ça c'est clair.
Pourra l'absorber.
Watson va bientôt nous soigner alors? Non, quand même pas.
Alors, est-ce que Watson va bientôt nous soigner? Je sais pas, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que Watson, contrairement au médecin, il a le don d'ubiquité, c'est-à-dire que maintenant Watson va aller dans le cloud. C'est un peu ça que nous dit IBM, c'est que tous les médecins pourront avoir accès à Watson.
C'est incroyable.
Donc même le cloud devient intelligent.
C'est ça. Et oui, on va parler du cloud aussi. Hein.
Bien sûr, puisqu'en fait, ce qui permet de rendre disponible ce machine learning, c'est à la fois la quantité d'informations disponibles, hein, puisque c'est quand même la base du machine learning, et puis c'est aussi la capacité de traitement énorme dont disposent les ordinateurs aujourd'hui, et donc dans le cloud. Et dans le cloud, on a quand même là, en quelques semaines, Google, qui a annoncé au début du mois de décembre, pendant qu'on était à San Francisco, l'API de Cloud Vision, qui permet aux développeurs d'avoir accès à la partie machine learning développée par Google, et la reconnaissance d'images. Donc, c'est-à-dire que demain, enfin même aujourd'hui d'ailleurs, nos développeurs d'applications vont pouvoir aller taper dans les API de Google pour proposer des nouvelles applications avec de la reconnaissance d'images. Donc ça va arriver bientôt dans nos smartphones.
Et Microsoft aussi. Hein.
Voilà, et Microsoft vient d'annoncer trois API dans son projet Oxford. Donc le projet Oxford de Microsoft, c'est le grand projet d'intelligence artificielle de Microsoft. Et ils viennent de libérer trois API sur l'image, la vidéo, la voix. Donc c'est-à-dire que encore une fois, les développeurs vont pouvoir intégrer des capacités dans les apps de reconnaissance d'images, de vidéos, de voix, donc des gens, de ce qu'ils font, de leurs mouvements, etc. Et là, on est clairement au moment où on va généraliser ce machine learning et qu'on va pouvoir reconnaître les gestes, les gens dans nos vidéos, sur nos smartphones.
Ça fait un peu peur quand même, hein, parce qu'il faut savoir après utiliser toutes ces données. Hein. Dans le respect de la vie privée, etc.
Ça va permettre de faire des chouettes films de vacances après Noël.
C'est clair. Merci beaucoup Guillaume de Groisse, donc de l'atelier. Et il est temps maintenant de retrouver Antoine Cyr, bien sûr, pour le crash test de cette semaine. Et en ce 19 décembre 2015, mon cher Antoine, c'est la saga des Pères Noël qui se poursuit.
Oui, dernièrement, je vous ai parlé de Dead Morose.
Oui.
Donc, Dead Morose n'est pas une personne morte.
Oui.
S'attriste du fait d'être décédé.
Non, c'est pas ça du tout.
C'est le Père Noël russe.
Exactement.
Qui d'ailleurs se vient accompagner d'une jeune femme.
D'une assistante sympathique.
Oui, oui, peut-être aussi sa fille, enfin, c'est pas
on
très
sait
bien.
Pas trop, ouais.
Qui s'appelle Snegurochka.
Oui.
Et donc, voilà. Donc, c'est le seul Père Noël qui ne vient pas tout seul dans la cheminée. Et donc, d'ailleurs, en général, il se coince dans la cheminée. Snegurochka l'aide à se décoincer.
Oui, c'est
enfin,
mignon. Enfin,
il y a
bref,
un côté, voilà, de Père Noël.
Facétieux.
Père Noël un peu pâteau.
Oui,
un
voilà.
Peu, voilà, qui,
alors, ça, c'était la semaine dernière.
La semaine dernière.
Et là, on poursuit notre saga des Pères Noël.
Alors,
d'ailleurs.
Beaucoup plus loin dans le Pacifique. Ce qui m'y a fait penser, c'est bien sûr l'actualité. Parce que vous savez que le 12 décembre a été marqué par de très fortes averses, en Polynésie française. Les communes de Itia, Otera et de Maina, à l'est de l'île de Tahiti, ont été très touchées par des inondations. Donc c'est vraiment très très impressionnant de voir que même l'île de Tahiti peut être
atteinte. Un paradis sur terre.
Voilà, peut être atteinte aujourd'hui par de graves inondations. La montée des eaux a provoqué la destruction de nombreuses berges. Malheureusement, il y a une personne qui a été décédée. Il y a environ 150 habitations qui ont été soit détruites, soit fortement endommagées. Donc voilà, le Noël va avoir une saveur particulière cette année, évidemment, en Polynésie, avec à la fois de la tristesse et l'occasion bien sûr d'essayer de trouver du réconfort après ces événements.
Mais alors à cette occasion,
alors justement,
vous vouliez nous parler d'une légende du Père Noël local.
Alors d'abord, il y a une chanson qui s'appelle C'est Noël à Tahiti. Et là, tout de suite, le C'est Noël à Tahiti vous met dans l'ambiance, puisqu'on vous dit, mais il la chante vraiment, hein, c'est pas un truc.
Oui, c'est pas un truc.
C'est pas un gars qui a dit, je vais faire Noël à Tahiti. Non, non, c'est devenu vraiment
une chanson de Noël.
Un tube de Noël local. Et donc, C'est Noël à Tahiti, sous les palmiers jolis, le Père Noël en Bermuda distribue du chocolat.
Oh, c'est mignon.
Ohé, sur la plage, dorment les enfants sages. Ohé, attendez, le Père Noël va passer. C'est Noël à Tahiti, les perroquets sourient, le Père Noël qu'on voit là-bas danse oula oula.
Voilà. Il y a un travail de rime.
Et puis aussi, c'est Noël à Tahiti, déjà presque minuit, le Père Noël va débarquer, canoë rempli de jouets.
Donc, oui, parce qu'il a un canoë là-bas, il n'a pas les rênes et le traîneau. Vous imaginez.
Vous avez compris que là-bas, donc là j'ai trouvé sur pas mal de blogs qui détaillent la façon dont Noël se passe à Tahiti, là on est quand même plus aidé par les blogs que par les articles du Wall Street Journal
oui,
sur ce sujet,
clairement. Oui, c'est vrai qu'on n'évoque pas souvent.
Voilà. Ouais. Et donc, On nous dit clairement que là-bas, le Père Noël est en short, que le surf a remplacé le traîneau. Il n'y a évidemment pas de neige, il n'y a pas de vrai sapin, mais tout est réuni pour attendre la venue du Père Noël du Pacifique. Et donc, par exemple, on voit plusieurs années précédentes de Noël où on voyait par exemple que à Papette avait été aménagé un véritable village de Noël avec quand même de la fausse neige, donc c'était amusant de voir la mairie de Papette entourée de scènes de Noël avec de la fausse neige. Bien entendu, on décore les palmiers, donc on est quand même assez loin des marchés de Noël alsaciens, du vin chaud et des bretzels, hein. Donc évidemment, les sapins, il y en a, mais ils sont faits quand même de manière très artisanale. Il y a des rennes aussi, mais les rennes, ils sont faits avec des fleurs locales qui sont agglomérées pour avoir la forme d'un renne. Et puis, alors, le Père Noël à Tahiti s'appelle Tane Metua Noera. Tane Metua Noera, là aussi, admirez mon accent.
C'est superbe.
Voilà, qui est tout à fait, pense...
Vous êtes tahitien dans l'âme.
Dans l'âme, voilà. Et d'ailleurs, Tane Metua Noera veut dire Père Noël en tahitien.
D'accord.
Et puis alors, comme quand même, on va pas faire des sagas de Noël jusqu'à
la semaine prochaine, ça va prendre un coup déjà.
Voilà. Donc, je voulais en profiter pour glisser une information qui concerne Noël et que j'ai trouvé dans Tahiti Info. Mais Tahiti Info, c'est un site qui est très très ouvert puisque ça concerne absolument pas Tahiti, mais par contre, ça concerne vraiment Noël et ça concerne l'Irlande en Irlande. Figurez-vous qu'il y a des gangs de voleurs de sapins qui sévissent chaque année.
Non, c'est pas vrai.
Si, si. Et donc, les fermiers et la police irlandaise ont mis en place tout un dispositif à base de technologie avec des patrouilles en hélicoptère pour assurer l'approvisionnement en armes de Noël. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que donc le vol de sapins aux agriculteurs atteint 2000 arbres par an en Irlande, soit une perte de revenus d'environ 100 000 euros pour les fournisseurs de sapins de Noël. Il y a même un fermier du coin qui a été ligoté et dépouillé sous la menace d'une arme à feu.
Non. Tout ça pour lui piquer ses sapins?
Exactement.
Oh là là.
Exactement. Et donc, ça a conduit au lancement d'une opération de police qui s'appelle l'opération Obstacle, qui a pour objectif de traquer les voleurs de sapins. Et donc, ils ont utilisé la sécurité, ils ont mis autour de leur exploitation des caméras de sécurité, des hautes barrières, des caméras alimentées à l'énergie solaire, si en Irlande il y en a, du soleil, et couplées à des détecteurs de mouvement qui envoient des images sur les smartphones des cultivateurs, des exploitants
de sapins.
Et qui
savent, comme ça, s'il y a des gens qui sont en train de piquer leurs sapins.
Au moindre frémissement. Alors il y a eu aussi, il faut savoir que dans ce coin-là, il y a aussi toujours un peu lié à Noël finalement, il y a du braconnage des cerfs. Donc ils ont lancé une opération qui s'appelle l'opération Bambi pour pincer les individus qui braconnent des cerfs. Et il faut savoir aussi qu'il y a du vol de houx. Et apparemment cette année, donc la fameuse opération anti-voleur de sapins, qui est l'opération Obstacle, aurait réussi à faire que le nombre d'arbres volés s'effondre cette année.
Eh bien, dites-moi, quoique à Tahiti on peut pas voler de houx.
Voilà, mais là j'étais compliqué. Sur l'air.
Non, on a bien compris. Bien, évidemment. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour ce crash test.
Bah de rien.
Voilà, spécial Noël.
Joyeux Noël.
Bah évidemment. J'espère que vous allez être couvert de cadeaux, cher Antoine.
J'espère bien aussi. Hein,
voilà. Oui. On vous souhaite évidemment plein de bonheur pour ce Noël. L'atelier numérique sera de retour la semaine prochaine avec une série de best-of pour le week-end de Noël et le week-end du jour de l'an. Et on sera de retour juste après. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Essayez un tout petit peu de décrocher, de vous reposer. Et à très vite donc.